L'avenir de la justice au Fénois au menu de ce journal. On parlera aussi des tensions sécuritaires dans la région. Et puis on prendra un bon coup de baguette en fin de journal avec Feels Monkey. Cette édition est présentée par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On parle de santé et de vidéo avec Tao Te Nane.
Oui, sélectionné pour le festival du film de santé pour tous organisé comme chaque année par l'OMS. En 2022, le docteur Nanetida Nwanesengzi, c'est son nom complet, et qui est généraliste à Tahiti, avait présenté Théorie versus Réalité, un très court film sur le quotidien des généralistes au Fénois. Cette fois, c'est un film un peu plus dur que Tao Te Nane, passionné de vidéo, a tourné. C'est ce qu'explique TNTV. Ce matin, Rose raconte une enfance marquée par les violences familiales, une histoire malheureusement très commune au Fénois, mais le court-métrage veut se montrer optimiste, amener de la réflexion plus que de la lamentation. Rose fait donc partie des 93 films sélectionnés sur près de 800 candidatures pour cette 4e édition du festival. Le film est visible sur YouTube et sur le site de l'OMS et le public peut voter pour ce court-métrage en mettant en commentaire le hashtag Films for Health sous la vidéo.
Le tourisme marche fort.
C'est en tout cas ce qu'indiquent les chiffres de la fréquentation hôtelière de février, plus 50% par rapport à 2022, plus 5% par rapport à 2019, année de référence de l'avant-Covid. Le taux de remplissage des chambres augmente, le revenu par clé bat des records pour la saison à plus de 50 000 francs par jour et par chambre louée. Seul point noir, la provenance de nos touristes qui est de moins en moins diversifiée. Plus d'Asiatiques, manque de correspondance oblige, moins d'Européens, peut-être à cause des disponibilités dans les hôtels. Restent les Nord-Américains, les métropolitains et les résidents qui représentent au total plus de 80% de la clientèle. Ce chiffre était à seulement 68% à la même saison en 2019.
On fait un détour par l'ECT.
L'école de commerce de Tahiti, dont les élèves de première année organisent un stage dating le 11 mai à destination de leurs camarades du campus de la CCISM, qu'ils soient de l'ECT ou de Poly 3D. Des étudiants qui n'ont généralement pas de mal à trouver un stage en entreprise, mais cette fois, il s'agirait avant tout d'un exercice pédagogique, d'une mise en situation. Écoutez.
Je demande aux étudiants de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller démarcher les entreprises. Donc, ça fait partie pour moi de l'apprentissage. Il y a quand même un pas qui doit être fait de la part des étudiants, d'aller prospecter les entreprises, savoir ce qu'ils vendent pour pouvoir obtenir dans un premier temps un stage et à l'issue du cursus, un emploi.
Odile Tchéou, la responsable des études de l'ECT qui était au micro de Vaitiar et Gobret. Le stage dating, il aura lieu, lui, le 11 mai.
L'Union syndicale des magistrats en visite au Fénois.
Oui, en tout cas son nouveau président Ludovic Fria, qui connaît bien le Pacifique pour avoir y exercé 20 ans au palais de justice de Nouméa. Alors l'Union syndicale des magistrats, c'est le syndicat majoritaire chez les juges et procureurs en métropole comme en Polynésie. Et la visite a lieu dans un contexte assez particulier pour le palais de justice de Papeete, marqué depuis plusieurs mois par des dissonances et des tensions qui ont eu un écho jusque dans la presse nationale. La chancellerie à Paris a même dû intervenir pour mettre fin à certains conflits de personnes au sein de la juridiction. Ludovic Fria explique que ces tensions sont en fait nées de certains empiétements du procureur général sur les prérogatives des magistrats du siège, mais que ce genre de problèmes seront en partie réglés par la future cité judiciaire de Papeete. On l'écoute.
On est un système de diarchie, c'est-à-dire qu'on a deux chefs à la tête des cours d'appel ou des tribunaux. Chacun a ses propres prérogatives et ne doit pas empiéter sur celles de l'autre. L'autre difficulté qu'on rencontre en Polynésie, les personnels de greffe et les budgets sont à la main de la cour d'appel, ce qui crée parfois, on va le dire, à la fois des frictions et puis des incompréhensions. Donc je pense que là-dessus, la cour d'appel Papeete, qui est la dernière à connaître ce système un peu ancien et dépassé, il faut bien le dire, va évoluer et qu'enfin, le tribunal de première instance sera un tribunal de plein exercice.
Le président de l'USM qui plaide pour davantage d'aménagement de peine aux Fénois, qui soutient aussi la demande de la Polynésie et de la Calédonie, où il a été en poste depuis 20 ans, donc de conserver leur cour d'assises. Ludovic Fria s'est aussi exprimé sur l'océanisation de la profession de magistrat. Aujourd'hui, elle est à embryonnaire. La justice doit ressembler au pays dans lequel elle est rendue, dit-il, ce qui implique d'attirer davantage d'étudiants polynésiens dans la longue formation de juge ou de procureur.
Je soutiens les initiatives visant à aller chercher dans nos facultés des jeunes, à leur faciliter l'accès à la magistrature. Et il y a actuellement un projet de loi organique qui est en cours, qui prévoit notamment pour le premier concours la possibilité pour les jeunes qui sont des classes préparation talent d'avoir une voie spécifique pour intégrer la magistrature. Alors peut-être, moi ce que j'espère, c'est que quelques Océaniens se saisiront de cette chance pour intégrer la magistrature.
Autre sujet abordé par le responsable syndical, les lenteurs du greffe de Papeete dénoncées avec force par les entrepreneurs et les juristes du Fénois ces derniers mois. Il faut dire qu'aucun concours n'avait été organisé pendant 8 ans par l'État sur cette profession. Pour rattraper le temps perdu, certains demandaient à ce que soient réduits les temps de formation en métropole et à augmenter la durée des stages à Papeete pour les candidats du pays. Attention à la fausse bonne idée, prévient Ludovic Fria.
On n'a pas été bon collectivement, puisque tant le ministère que les autorités judiciaires locales, 8 ans entre deux concours, c'est beaucoup trop long. Il ne faut pas attendre effectivement que les effectifs soient trop dégarnis. Après, on rentre dans un corps de l'État où on va peut-être rester pendant 20, 30 ou 40 ans de pouvoir s'ouvrir, notamment au niveau de sa formation, sur d'autres choses. Oui, bien sûr que juridiquement, on peut réduire la durée du stage en métropole, mais il ne faut pas trop la réduire non plus.
Voilà toute l'interview du président de l'Union syndicale des magistrats est à retrouver sur notre site Radio1.pf.
Un mot sur l'actualité régionale.
L'actualité et les tensions dans le Pacifique ou même l'Indo-Pacifique, des tensions dont parle un long article de la revue The Conversation paru hier. La chercheuse de Sciences Po, Marianne Perron-Doise, y interpelle sur la naissance d'une nouvelle grande puissance militaire dans la région. Alors il ne s'agit pas de la Chine qui monte déjà ses muscles militairement depuis plusieurs années, mais bien du Japon. L'archipel nippon est bien sûr déjà un acteur majeur de l'Indo-Pacifique, mais surtout sur le plan économique et commercial. Or, à l'approche du sommet du G7 qui se passera le mois prochain à Hiroshima, le gouvernement japonais ne fait plus de mystère sur ses ambitions du point de vue militaire et diplomatique. De ce côté-là, Tokyo était jusqu'à présent très prudent, s'appuyant principalement en termes de défense sur son grand allié américain. Une politique qui a évolué avec les accros réguliers avec la Corée du Nord, la crise montante autour des îles Senkaku avec la Chine, la question de Taïwan qui risque à tout moment d'embraser la zone, et bien sûr la guerre en Ukraine qui fait grimper les tensions dans le monde entier. Le Japon va ainsi faire l'acquisition de moyens de contre-attaque et notamment de missiles Tomahawk auprès de Washington. Son armée va aussi améliorer son interopérabilité avec ses alliés. Pour la chercheuse, il ne s'agit pas d'une militarisation débridée de l'archipel, comme le dénoncent en chœur la Chine et la Russie, mais d'une normalisation de l'appareil de défense du pays. Toute l'analyse est à retrouver en ligne sur le site de The Conversation, donc, et un documentaire est aussi visible en ce moment sur le site de la chaîne Arte, son nom Japon, l'ombre de la guerre.
Et puis on finit sur un ton plus léger, mais beaucoup plus rythmé.
Celui des Filz Monkey, c'est le nom de ce duo humoristique et qui a déjà fait battre le cœur du public tout autour de la planète. Il débarque au Fénois le 29 avril avec son spectacle We Will Drum You, c'est samedi le 29 avril. Sébastien Rambeau et Yann Coste, qui ont plus de 20 ans d'amitié derrière leur batterie, promettent un show inclassable avec de la musique, des instruments étranges, des instants de poésie, mais surtout de bonnes tranches de rire. Filz Monkey a donc déjà exporté son coup de baguette dans des Amériques à l'Asie en passant par les festivals de toute l'Europe. Cette fois-ci, c'est au Grand Théâtre donc, et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas percussionniste dans l'âme, We Will Drum You s'adresse à tous de 3 à 120 ans. Rendez-vous donc ce 29 avril. Les places, c'est bien sûr sur ticketpacifique.pf, dans vos magasins Carrefour et puis à l'accueil de vos radios préférées ici à Faréouté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actu, ce sera pour le flash de 16h avec Caroline Perdry.
Merci beaucoup, Charlie.